Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
À la une, troisième jour de combat ce samedi autour de Sake au Nord Kivu. Les armes ont parlé toute la nuit dernière. Du coup, l'inquiétude s'accroît au sein des habitants de Goma. Par ailleurs, la coupure d'électricité s'est renforcée depuis hier soir dans la ville, situation qui affecte déjà les activités économiques à Goma. Et puis cette inquiétude du caucus des députés nationaux du Congo central, ces élus n'approuvent pas le fait que les choses avancent à grands pas concernant les travaux du pont route rail Kinshasa-Brazzaville, alors que ceux du port en eau profonde à Banana stagnent. Ils interpellent le chef de l'État quant à ceux. Et puis, Bruno Lemarquis est l'invité de ce journal. Le coordonnateur humanitaire en RDC évalue sa mission de 5 jours dans l'est de la RDC et parle de la dégradation de la situation humanitaire au nord et au sud Kivu, situation consécutive à l'intensité des combats dans cette région. Madame, Messieurs, bonjour. La situation reste tendue ce samedi dans les zones des combats au Nord Kivu, opposant depuis 3 jours l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23. C'est notamment sur les axes Sake, territoire de Masisi, et Kibumba, territoire des Nyiragongo, des détonations d'armes lourdes qui sont entendues par les habitants de la ville de Goma exacerbent la panique dans la ville. Bernardin Nyangi, reportage.
Les combats qui en sont au troisième jour ce samedi continuent notamment sur l'axe Kasenge-Simubambiro autour de la cité de Sake, ainsi que sur l'axe Kanyamaoro-Kibumba en territoire de Nyiragongo. Des détonations d'armes lourdes et légères, entendues presque toute la nuit par les habitants de Goma, continuent ce samedi, accroissant l'inquiétude dans la ville. Des sources contactées dans les zones proches des deux lignes de front indiquent que sur l'axe Sake, l'armée congolaise, appuyée par les Wazalendo, la MONUSCO et la SAMIDRC, poursuivent des tentatives de libérer les notabilités de Mubambiro et de Macha qui sont toujours occupées par les rebelles du 1-23 autour du centre de Sake. Et du côté de Kibumba, nord de Goma, l'armée a une fois encore contré la nuit de vendredi à ce samedi une nouvelle tentative de l'attaque des rebelles sur ses positions stratégiques de Kanyamaoro et Kilimanyoka, groupement de Bumba, disent nos sources. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Kapi.
Par ailleurs, la coupure d'électricité s'est renforcée depuis la soirée d'hier vendredi dans la ville de Goma. C'est à la suite des dégâts causés sur la ligne de la société Virunga Énergie par les affrontements en cours sur l'axe Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Une situation qui intervient 3 jours seulement après des dégâts similaires ayant coupé la ligne haute tension de la SNEL desservant Goma en électricité en provenance de Bukavu. C'était dans la zone de Nzulo, territoire de Masisi. Pour le président des boutiquiers de Goma, cette situation affecte déjà les activités économiques dans la ville. Kembo Amnasi le dit au micro de Bernardin Nyangi.
La coupure de l'énergie électrique de la SNEL et de Virunga, au niveau des opérateurs économiques, exactement, ça va créer vraiment un impact négatif. Ce sera un manque à gagner aux opérateurs économiques, surtout dans le secteur de l'hôtellerie. Tous les hôtels fonctionnent avec l'énergie, aussi avec des entreprises, magasins, boutiques aussi, fonctionnent aussi avec les courants électriques. C'est pourquoi vraiment nous ne savons pas quoi faire. Peut-être nous souhaiterions que ça puisse être rétabli rapidement, afin que les opérateurs économiques puissent continuer de faire des activités commerciales. Mais à défaut de cela, ça va nous impacter négativement dans les jours qui viennent, dès les jours à venir. Hein, c'est ça. Et comme ça vient d'affecter la population, nous allons toujours prier pour qu'ils puissent nous rétablir les courants dans la ville de Goma.
En réaction, le directeur général de Virunga Energy dit évaluer d'abord la situation, mais dans son communiqué officiel rendu public hier soir, Ephrem Balolé indiquait que ses équipes pourront intervenir sur le réseau de Matebe coupé au niveau de l'axe Kanyamaoro-Kibumba dès que la situation le permettra. Pendant ce temps, en province du Maniema, le parti politique Mouvement de solidarité pour le changement, MSC, dit s'est rangé derrière les phares d'essai en cette période où notre pays fait face à l'agression du M23 soutenue par le Rwanda. Le secrétaire général adjoint du MSC appelle toute la population à barrer la route aux agresseurs du Congo en s'est rangeant également derrière la vision du chef de l'État. Rajabu Amisi Bin Musazi le dit au micro de Florence Kizalunga.
Nous, cadres et membres du parti Mouvement de solidarité pour le changement, nous sommes très indignés et tiqués des actes de tuerie qui passent à l'est de notre pays par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. C'est pourquoi, comme il nous a été recommandé lors de notre rentrée politique, par le président national, honorable Laurent Batumona-Kandika, de se ranger derrière la vision du chef de l'État qui prône la paix. C'est pourquoi j'appelle la population de la RDC et celle du Maniema en particulier d'être derrière les FARDC, notre armée qui combat les rebelles du M23. La paix n'est pas l'affaire d'une personne, mais la paix c'est une affaire de tous. Nous devons être derrière d'abord la vision du chef de l'État et derrière nos FARDC pour barrer la route ainsi aux agresseurs de la République démocratique du Congo. Nous sommes confiants que les FARDC feront quelque chose et ils font quelque chose pour défendre l'intégrité de notre pays.
Entre-temps, sur le terrain au Nord Kivu, alors que les affrontements se poursuivent entre les FARDC et les rebelles du M23 pour le contrôle de la région autour de la cité de Sake, la désinformation se répand à un rythme inquiétant, principalement via les réseaux sociaux. Cette prolifération des fausses informations suscite des vives préoccupations parmi les habitants, notamment à Goma, proche des zones de combat où les appels à la vigilance se multiplient face aux dangers qu'elles engendrent. Le point avec Martial Papi Mukeba.
Depuis des jours, les combats entre les FARDC et les M23 pour le contrôle des Sake ont plongé les habitants dans une tension et une confusion accrue. La désinformation amplifiée par les réseaux sociaux vient aggraver une situation déjà critique. Certains, comme cette femme, s'inquiètent des effets de ces fausses informations.
Ces messages qu'on voit sur les réseaux sociaux nous perturbent. On ne sait plus qui croire. On lit que les FARDC avancent, puis qu'elles reculent. C'est très stressant et cela créer de la panique parmi nous.
André Michel Essungu, expert en question des désinformations dans le contexte des opérations de maintien de la paix de l'ONU à New York, avertit la population.
Cette période de tension voit souvent plus de posts sur les médias sociaux et de contenus diffusés par divers moyens qui ressemblent à des contenus visant à manipuler les populations, à leur faire peur, à rendre la situation encore plus tendue qu'elle ne l'est déjà. Donc il est important d'être plus vigilant encore que d'habitude, parce que la désinformation se nourrit de ce sentiment de peur et de ce sentiment de danger.
Les médias et les journalistes sont appelés à redoubler d'efforts pour lutter contre la désinformation. Goma, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Pendant ce temps, le Conseil suprême de la société civile congolaise recommande au président de la République, commandant suprême des forces armées, de décréter en urgence et par procédure constitutionnelle l'état de siège dans la province du Sud Kivu. Dans une déclaration devant la presse vendredi à Kinshasa, le président national de cette structure citoyenne indique que face à l'avancée des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, il faut vite recourir à une administration dissuasive pour sauver la province du Sud Kivu. Par ailleurs, Maître Carlos Mupili recommande la désignation objective des animateurs parmi les officiers généraux supérieurs non originaires de cette province. On écoute Maître Carlos Mupili dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Oui, le Conseil suprême de la société civile congolaise est très inquiet d'apprendre que l'ennemi est déjà présent dans la province du Sud Kivu. Nous demandons au président de la République, commandant suprême des forces armées, de décréter en urgence et par procédure constitutionnelle l'état de siège dans le Sud Kivu. Les gens se trompent lorsqu'ils confondent l'état de siège et les animateurs de l'état de siège. L'état de siège ne peut pas échouer parce que c'est une mesure constitutionnelle et on ne peut pas négocier ni discuter avec les prescrits de la Constitution. C'est pourquoi la désignation des animateurs de l'état de siège au Sud Kivu doit être objective. C'est-à-dire, on doit chercher les officiers généraux supérieurs non originaires pour venir vite organiser l'administration militaire dans la province. Pour sauver la province, il faut vite recourir à une administration dissuasive qui est l'état de siège.
Et dans le territoire de Beni, nous apprenons que 13 détenus se sont évadés du cachot du commissariat de police de Kantine. Cela s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. Kantine est une localité située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Beniville. La société civile locale précise que les détenus ont profité de la vétusté du mur de ce cachot qui date de l'époque coloniale pour y creuser un trou et s'échapper. Elle appelle la population à dénoncer auprès des services de sécurité la présence de tout individu suspect. Cheche Musubao, président de la société civile de Kantine, joint par Marc Marofimbo.
Dans les cachots, il y a 17 détenus, dont 13 se sont volatilisés dans la nature et 4 geniers restés dans les cachots. Malheureusement, le commandant de la police à place, comme les 4 détenus n'avaient pas des infractions graves, ils ont jamais les libérer le matin de ce jeudi. Et les détenus ont profité par la veillance de la maison qui loge la police nationale congolaise. Ils ont trouvé en fait les murs derrière le cachot. C'est là où ils ont trouvé les chemins de se volatiliser de la nature. Pour dire que les bâtiments qui abritent la police nationale congolaise sous le commissariat des cantines datent de l'époque coloniale. Juste, nous allons continuer avec les enquêtes avec l'OPJ. Nous allons voir parmi les détenus, est-ce qu'on peut en avoir les détenus qui étaient nuisibles à la communauté. Pour attirer l'attention de la population, on peut voir celui qui était détenu dans les cachons et il est nuisible à la communauté. Directement, ils peuvent appeler le service de sécurité pour le maîtriser encore plus.
Je vous le disais en titre, le caucus des députés nationaux du Congo central s'est dit inquiet au sujet des travaux de construction du port en eau profonde à Banana dans le territoire de Moanda. En séjour dans cette partie du pays, les membres de ce caucus affirment que sur place, les travaux stagnent. Il n'y a aucun engin, moins encore une trace d'un chantier en mouvement. Cependant, disent-ils, les choses avancent à grands pas en ce qui concerne les travaux du pont route rail Kinshasa-Brazzaville. Pierre Nsumbu, président du caucus des députés nationaux du Congo central, appelle le chef de l'État à réaliser sa promesse de construire en premier lieu le port en eau profonde de Banana. Ses propos sont recueillis par Nana Plurich Mambou.
Nous sommes à Banana, où doivent s'ériger les travaux de la construction du port en eau profonde. Ce port dont l'importance n'est pas démontrée. Nous sommes d'autant plus inquiets que nous constatons que depuis notre dernière visite, rien n'a évolué ici. C'est le statu quo ici. Nous sommes caucus de députés du Congo central. Nous relayons non pas seulement l'inquiétude de la population vivant au Congo central, mais l'inquiétude de toute la population congolaise. Ce port, c'est une affaire de souveraineté nationale. Ça concerne d'abord la RDC. Et ici, non pas seulement que nous sommes inquiets, mais aussi nous pouvons compter sur le chef de l'État qui n'a jamais changé sa position selon laquelle, oui, à l'érection du pont route rail entre Brazzaville et Kinshasa, parce que nous pouvons nous opposer à l'intégration régionale, mais d'abord l'érection de ce port en eau profonde. D'abord l'intégration nationale et puis viendra l'intégration régionale à travers le pont entre route et rail. Donc nous continuons à compter sur cette détermination, cette volonté du chef de l'État, mais nous sommes inquiets aussi de voir que de l'autre côté de Kinshasa, apparemment, les travaux semblent plus avancés qu'ici.
Le programme américain d'engagement citoyen et civique en période post-électorale est déjà lancé officiellement depuis jeudi dans 14 villes de la RDC. C'est notamment à Bandunduville. Ce programme de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC vise le renforcement de la démocratie par la participation des jeunes dans la région de la chose publique et aussi la recevabilité de la part des élus à tous les niveaux. Ce lancement marque le début officiel de la deuxième phase de ce programme dont la première a été lancée en août dernier. À Bandundu, les participants s'y sont réunis au gouvernorat du Kwilu pour suivre cette activité. Reportage de Irène Boma.
Plusieurs autorités politico-administratives ainsi que des centaines de jeunes ont participé pour le compte de la ville de Bandundu à ces assises relatives au lancement en mode hybride du programme dénommé American Spaces Post-Elections Programming. Il s'agit d'un programme mis en œuvre par l'ambassade des États-Unis en RDC et ses partenaires avec la coopération des autorités locales et aussi des acteurs de la société civile. Les coordonnateurs de ces programmes dans la province du Kwilu explique l'objectif du programme. Prince Liam Piebe.
Ce programme a pour objectif de renforcer la démocratie en encourageant la participation effective des jeunes dans la gestion de la chose publique, notamment en encourageant les échanges entre les élus et les électeurs, ça veut dire les jeunes qui sont allés donner mandat à ces élus. Et ces élus, à leur tour, leur doivent redevabilité et implication dans le développement communautaire de nos régions. Il s'agit du programme d'engagement citoyen et civique des jeunes pour la période post-électorale.
Au cours des échanges, le ministre provincial de l'énergie du Kwilu, Maître Alpha Luma, représentant du gouverneur des provinces empêchées, a saisi l'occasion pour sensibiliser les jeunes sur les valeurs de l'engagement civique. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale. L'armée soudanaise et les forces de soutien rapide FSR s'accusent mutuellement d'avoir incendié une raffinerie pétrolière majeure près de Khartoum, la capitale du Soudan. Cet incendie qui a ravagé une installation essentielle à l'approvisionnement énergétique du pays intensifie les tensions dans un conflit qui dure depuis plusieurs mois. L'armée soutient que les FSR ont déclenché l'incendie pour détruire les infrastructures pétrolières après plusieurs échecs pour contrôler les ressources. Le FSR, en revanche, réplique que ce sont des frappes aériennes de l'armée qui ont causé la destruction, qualifiant cet acte de crime de guerre.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis. Il a bouclé hier sa mission de 5 jours dans la partie est de la RDC. Dans cet entretien exclusif à Radio Kapi, il évalue sa mission et parle de la dégradation de la situation humanitaire au nord et au sud Kivu à la suite de l'intensité des combats, mais également des interventions humanitaires en cette période. Bruno Lemarquis est avec Denise Lukeso.
Monsieur le coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour et bonjour aux auditeurs de Radio Okapi.
Vous venez de boucler votre mission de 5 jours dans la partie est de la République. Comment évaluez-vous sur l'ensemble votre mission?
Je vais peut-être commencer par l'Ituri où nous avons passé 2 jours. Du point de vue de la situation sécuritaire et humanitaire, nous nous sommes également rendus sur Inga Barrière. D'une manière générale, il y a un certain calme en ce moment en Ituri, sauf bien sûr dans le territoire de Djougou et puis vers le sud de la province de l'Ituri avec le groupe ADF. Bonne nouvelle, il y a certains territoires où la situation s'est relativement stabilisée ces derniers temps grâce à tous les efforts du gouverneur, des forces armées, des forces de sécurité congolaises qui travaillent de manière très étroite avec la MONUSCO. Du point de vue de la situation humanitaire, il reste quand même 1,4 million de déplacés dans la province de l'Ituri. C'est là vraiment le territoire où il y a le plus de défis sécuritaires, le territoire de Djougou, où là les besoins restent très très élevés avec énormément de déplacés, beaucoup d'entre eux dans des familles d'accueil. Les acteurs humanitaires sont pleinement mobilisés pour répondre aux besoins des populations déplacées. Au niveau de la zone de Béni, du point de vue humanitaire également, beaucoup de besoins, notamment du fait de l'activisme du groupe ADF qui récemment a repris ses activités dans des territoires d'où il avait été absent depuis plusieurs années et il est également apparu dans d'autres zones où il n'avait jamais été actif. Donc il y a beaucoup de victimes civiles du fait des ADF, beaucoup de déplacés. C'est une situation également très grave du point de vue humanitaire. Ensuite, c'est la situation du sud Kivu et autour de Goma avec la dernière offensive du groupe M23. En termes des besoins humanitaires, bon, il y avait déjà énormément de déplacés qui étaient présents autour de Minova, territoire de Calais. Beaucoup de ces déplacés ont dû se redéplacer du fait de l'avancée du M23. 78 000 personnes ont fui les combats actifs dans le territoire de Calais au sud Kivu. On est en train de se réorganiser comme acteurs humanitaires pour pouvoir accéder à ces populations dans le besoin. Les acteurs humanitaires restent pleinement mobilisés pour appuyer ces personnes.
On sent de plus en plus la situation s'est dégradée au nord Kivu, tout comme au sud Kivu. Avec ces nouveaux déplacements, ça peut avoir quel impact humanitaire?
Bon, l'impact humanitaire, c'est des nouveaux déplacements de population, notamment de population qui a été plusieurs fois déplacée déjà, donc des gens extrêmement fatigués, des gens qui sont dénués de tout, donc ils doivent reprendre leur petit baluchon et rebouger une xème fois. Des impacts en termes de protection, de risque, la protection des civils. On pense notamment aux personnes qui bougent de l'ouest vers l'est, qui sont maintenant dans la banlieue très proche de Goma, une zone avec énormément d'hommes en armes, et puis les risques, compte tenu de l'évolution de la situation, de gros risques sur la protection des civils. Il y a des problèmes d'accès humanitaire sur lesquels on travaille compte tenu de l'évolution rapide de la situation. Nous sommes en train de faire des évaluations, des analyses sur les besoins humanitaires, sur nos capacités de répondre, puisque les acteurs humanitaires également sont affectés par cette situation, donc les capacités de réponse. Et puis nous faisons également des scénarios, puisque nous ne savons pas quelle direction cette situation va prendre, mais on doit se préparer au niveau des acteurs humanitaires, au niveau des Nations Unies. Nous sommes sur terrain. Nous faisons le maximum pour assurer la sécurité de nos personnels, mais nous sommes là aux côtés de la population pour apporter notre assistance.
Oui, les combats se sont intensifiés dans la partie du territoire des Kalehe. Certains humanitaires ont suspendu momentanément leur mouvement dans cette zone. Avec quelles conséquences sur les communautés locales et les déplacés qui bénéficiaient de cette assistance?
Alors, quand il y a des combats actifs, on ne peut pas travailler, donc on s'adapte, on attend que la situation de combat soit terminée. et ensuite on reprend les activités. Compte tenu des mouvements, de l'évolution de la situation, des mouvements actuellement en cours, on se réadapte. Nous discutons pour toujours avoir l'accès humanitaire, donc pour que trouvons les voies et moyens pour accéder aux populations qui en ont besoin. Nous suivons de près les déplacements de populations, où est-ce qu'elles sont, quels sont les besoins, etc. Et puis on mobilise, notamment avec le concours de OCHA, on mobilise les acteurs humanitaires, on essaye de coordonner, on priorise pour que notre réajustement corresponde aux besoins des populations.
Monsieur Bruno Lemarquis, je rappelle que vous êtes le coordonnateur humanitaire. Radio Okapi vous remercie.
Merci beaucoup et merci toujours aux auditeurs de Radio Okapi pour leur fidélité à Radio Okapi.
Le coordonnateur humanitaire répondait aux questions de Denise Loukesso. Par ici prend fin ce journal, coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, à la mise en onde Mimi Kindou. Merci d'avoir été des nôtres.